Non, j'aime bien les journalistes. Et je déteste les questions.
Barbara, en noir et blanc.
Pas du tout, je ne vous injurie pas. Je réponds la vérité, je fais mon métier, c'est tout.
Une émission de Francis Legault.
Présentée par Anne Dorval.
Si je n'avais pas chanté, j'aurais peut-être été prostituée. D'ailleurs, chanter, faire de la scène, c'est un peu la même chose.
Barbara, en noir et blanc, diffusée sur les ondes des radios francophones publiques.
Tu me paralyses en me disant ça parce que je me souviens plus ce que j'ai fait. Enfin, ça fait rien.
La chanteuse de minuit, la longue dame brune, l'aigle noir, autant de noms qui piquent la curiosité. Barbara est-elle vraiment mystérieuse ou est-ce la presse qui a voulu l'habiller de mystère? Qui se cache derrière la femme qui chante? À l'émission Comme il vous plaira, avec Maurice Béjart.
France Inter.
Ça t'a embêté le succès?
Ça m'a dérangé. À la fois ça m'a émerveillé, à la fois ça m'a beaucoup dérangé parce que c'était comme un viol. Je ne savais pas du tout, pas très bien. Au départ, j'étais très très malheureuse de ça. Je ne comprenais pas, c'est-à-dire toutes les choses que tu as gardées pendant des temps, tout à coup sont violées. Il y a eu vraiment que ma maison où personne n'est entré, parce que c'est vraiment un jardin très secret, mais j'avais l'impression tout à coup que ma vie comme ça était déchirée et jetée, enfin, c'était comme un ventre ouvert. Parce que il faut bien répondre des choses aux journalistes. Alors on dit des choses et puis ils les entendent d'une autre façon, ils les écrivent encore d'une autre manière. Elles sont lues.
Ça fait beaucoup.
Alors ça c'est affreux parce que finalement c'est pas ça du tout que tu as dit. Alors ça c'est vrai. Au départ j'ai pleuré et puis après le succès isole finalement. C'est-à-dire que tu perds des relations, des gens dont tu as les gens qui te disent oh, vous avez changé. Ça n'est pas vrai du tout. On change pas, ce sont les gens qui changent vis-à-vis de toi. Mmh. Et moi, je trouve que plus les choses vont, les gens te disent aussi combien de fois. Les gens ont dû dire ah, mais alors maintenant ça va. Mais non, justement, ça va pas du tout. Alors, ça va jamais. Non, parce que c'est plus la même angoisse. C'est-à-dire que bon, on sait qu'on peut s'acheter une paire de bas et on sait qu'on peut manger, si tu veux. Mais il y a cette angoisse d'assumer.
Avant de devenir un proche de Barbara, le journaliste Jérôme Garcin a droit à une rencontre peu concluante.
J'étais venu pour l'interviewer pour le journal L'Événement du Jeudi. Et comme on le sait sans doute maintenant, Barbara détestait les interviews et n'aimait pas tellement les journalistes. Elle s'en méfiait et surtout, les spectacles qu'elle faisait étaient l'occasion d'une telle liturgie que venir l'interroger dans sa loge au Châtelet, c'était presque un crime lèse-majesté. Et donc, j'ai pas un bon souvenir parce qu'elle me regardait comme journaliste, moi je la regardais comme presque diva. Et l'entretien, évidemment, ne donnait pas grand-chose parce qu'elle avait tout simplement une méfiance qui faisait qu'elle se livrait pas beaucoup.
Si Barbara ne se laisse pas apprivoiser facilement, c'est peut-être parce qu'elle a maintes fois été échaudée par les intervieweurs. Un des exemples les plus gratinés, sa rencontre avec Jacqueline Joubert.
Barbara, la solitaire, travaille dans une petite pièce, pleine de douceur et de charme, où l'obscurité règne. Pourquoi l'obscurité?
Parce que j'aime l'obscurité.
Pour vous cacher?
Pas du tout.
Moi, j'imagine les poètes vivant dans un jardin secret sans jamais en sortir. Or, vous, vous en sortez souvent.
Ah, mais moi, je ne suis pas un poète.
Ah bon? Voilà une nouvelle. Bon. En tout cas, vous sortez souvent de votre jardin secret.
Oui, je sors assez souvent de mon jardin secret. C'est pour pouvoir y mieux retourner, peut-être.
Ah bon? C'est une réponse curieuse, ambiguë. J'aimerais la vérité.
Ben si, la vérité, c'est
à l'extérieur,
que j'aime
qu'est-ce
beaucoup mon jardin, mais j'aime beaucoup aussi sortir,
ah,
voilà.
À l'extérieur, que se passe-t-il?
Il se passe un tas de choses, je sais pas.
Que vous aimez?
Vie, c'est bien, bien sûr, c'est une chose que j'aime, parce que j'aime la vie, bien sûr.
Lesquelles? Savoir?
Un tas de choses, non, je sais pas, moi, les fleurs, les... Quoi, les...
Oui, vous êtes fidèle aux choses?
Non, je suis assez infidèle aux choses.
Ah.
Avec la journaliste Andréane Lafont, une interview aux allures d'interrogatoire.
Vous ne vous livrez pas facilement?
Si, je vous ai tout dit.
Non, mais très sincèrement, vous n'aimez pas les entrevues en général?
Avec vous, j'aime beaucoup.
Vous êtes très aimable, mais êtes-vous une femme fermée?
Je pense que ça n'a aucun intérêt que je raconte ce que je lis, ce que je fais, comment je déjeune, comment je vis, qui j'aime pas. Tout ce que j'ai à dire, et j'ai rien à dire, mais le peu de choses que j'ai à dire, je le dis en scène, je suis parfaitement nue en scène, et je m'étonne toujours qu'on vienne me dire, vous ne voulez rien dire, puisque là, j'ai tout dit, enfin, j'ai rien à dire. Je suis une femme comme toutes les femmes, avec la seule différence qu'il y a entre une autre femme et moi, c'est que je chante.
Bon, mais si par exemple, un jour, quelqu'un vous demandait de vous arrêter de chanter, que vous soyez très amoureuse de la personne qui vous demanderait de vous arrêter, le feriez-vous?
De toute façon, j'ai déjà choisi. Mon choix est déjà fait. Je chante.
Vous ne croyez pas à l'amour ?
Je ne dis pas ça. Je dis simplement que mon choix est déjà fait. Je crois à l'amour, mais chanter pour moi, c'est aussi l'amour sous une autre forme. J'ai choisi déjà, il y a longtemps.
Êtes-vous une femme sentimentale ?
Nous le sommes toutes.
Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira.
Quotidien pluriel avec Jacques Chancel.
Qu'est-ce que c'est, en fait, la solitude ? C'est une grande part d'égocentrisme que j'ai en moi, certainement. Aussi une grande faiblesse, ne pas savoir vivre à deux, très probablement. Et une grande force aussi. Je pense que c'est une très grande force, parce que vous pouvez recharger vos accus, vous n'avez pas à tricher devant l'autre. Parce que moi, je trouve que c'est important de... Ce qui est terrible dans le couple, c'est de ne pas pouvoir se renouveler. De ne pas, moi, je ne suis pas sûre d'avoir la richesse de me renouveler pour séduire l'autre toute une vie. Je ne suis pas sûre de ça. Je suis même sûre que je ne suis pas capable de ça. Or, si on n'a pas ça, l'amour, moi, je ne sais vivre que les choses passionnelles. J'ai pas le talent de vivre l'amour, le toujours, que je trouve aussi une malhonnêteté quelque part. Hein?
Mais donc, la solitude, c'est pour vous plus une force qu'une faiblesse parce que vous ne la regrettez pas.
C'est les deux. Non, je ne la regrette pas. Je serais pas mal élevée.
Vous l'avez choisi.
Je l'ai choisi, donc je serais pas mal élevée au point de dire, oh oui, vous savez, la solitude, quelquefois, c'est difficile. Ah non. Ah non.
Non.
Ah non, non, non. Non, je l'ai choisi. Je pense que c'est une grande faiblesse, une grande part d'égocentrisme, et aussi que c'est une force. Quelque part, il me semble que quelquefois je suis plus disponible aux autres et plus ouverte, et j'ai mieux appris à entendre l'autre, parce que justement dans cette solitude, on peut se recharger. Alors, on va pas parler de moi difficile, parce que ça, ce serait vraiment mal élevé.
En entrevue avec Louis Roger.
Quelle est votre attitude vis-à-vis des hommes en général ?
Je les aime. Beaucoup. Je les admire. Ils m'ont fait aussi, les hommes. Je dis, ils ont beaucoup d'importance. Les hommes de ma vie sont des hommes que je ne renierai jamais, nullement. Ils m'ont fait et...
Vous trouvez que c'est normal ?
Que quoi ?
Que les hommes fassent la femme.
Je sais pas si c'est normal ou non, mais les hommes m'ont fait et... Voilà, c'est... Les hommes, qu'en pensez-vous ? Je les aime. Je les aime beaucoup. J'ai besoin d'eux.
Avec des yeux plus grands que le ventre, avec des mots plus grands que le cœur, ils entrent dans notre existence. Côté tendresse, côté cœur, ils nous racontent leur enfance en se cachant sur nos genoux. Et je ne crois pas qu'ils plaisantent quand ils disent « peur de vous, ils nous découvrent, ils nous adorent, ils nous bercent avec des chansons, ils font bien d'autres choses encore, moi je les trouve assez mignons, avec une belle assurance, une fois par mois, avec des fleurs, ils nous proposent une existence, côté coin du feu, côté cœur, ils ronronnent dans nos corbeilles et viennent manger dans nos mains, puis de bonheur, ils s'ensommeillent. Ça nous fait de joyeux matins. Ils nous embrassent, mais nous ignorent. Ils chantent faux sur nos chansons. Quelquefois, ils font pire encore. Ça ne fait rien, moi je les trouve mignons. Un jour, ils refument la pipe qu'ils avaient jetée aux orties. Et voilà qu'ils prennent en grippe la cage qu'il s'était choisi. On se dit que l'on s'aime encore, en sachant que rien ne va plus. Ce monsieur près de qui l'on dort, pourquoi donc nous avait-il plu? On leur ouvre tout grand la porte, on n'a plus le cœur aux chansons. Bêtement, la vie les emporte, dommage, ils étaient bien mignons. Avec tes nuits de solitude, avec tes jours de fin de mois, on se refait les habitudes, à vivre seul, on vit pour soi. Et voilà tes beaux qui reviennent. Bonjour, tu vas bien, me voilà, cette maison qui est la mienne. Tu vois que je ne l'oublie pas, on ne dit rien, mais on s'étonne, on a beau ça. va voir la chanson. On la trouve assez polissonne, la dernière de nos mignons. Avec des yeux plus grands que le ventre, avec des mots plus grands que le cœur, ils reviennent dans notre existence, côté A, côté cœur. Et bien qu'on connaisse leur enfance, et bien qu'on connaisse la chanson, ça ne fait rien, on recommence. C'est vrai qu'ils sont mignons, mignons.
Boris Cyrulnik.
J'imagine que les hommes qui l'ont côtoyée ont dû souvent penser qu'elle n'était pas facile à aimer. On sait que les enfants qui ont été des enfants cachés pendant la guerre, c'est-à-dire traqués, persécutés, pour être mis à mort, des enfants pour être mis à mort, ces enfants-là font des couples difficiles, puisque beaucoup ont du mal, préfèrent être célibataires, des hommes et des femmes. Quand ils se marient, ils ont souvent peur d'aimer parce que ils n'ont pas l'amour tranquille. Comme ils n'ont pas appris à aimer paisiblement dans la vie quotidienne, ils ont souvent du mal à aimer. Lorsqu'on a eu une enfance comme celle de Barbara, je fais l'hypothèse que elle savait pas aimer. Elle avait un grand besoin d'amour, de donner et de recevoir, un grand, mais elle savait pas aimer dans la durée, dans le quotidien, et que probablement elle devait déclencher des souffrances pour des incidents de la vie, pour des bêtises de la vie, parce que pour elle c'était pas une bêtise, c'était tellement investi que elle avait pas la décontraction, la souplesse, la légèreté des attachements sécures.
Avec François de Lestrade.
Il y a des quotidiens effrayants, mais les quotidiens où on se demande vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir manger le soir et si c'est trop, ou elle, bon, ça m'intéresse déjà moins, ou bien je sais pas quoi, vous comprenez, il y a des quotidiens, des gens, effectivement, des fois qui me disent des choses, c'est un autre monde, ouais, c'est un autre monde, parce que je ne sais pas ce qu'on me dit.
Est-ce que c'est le quotidien qui fait la difficulté des couples?
Alors, la difficulté des couples, alors ça, écoutez. Ça, oui, c'est le quotidien qui fait la difficulté des couples. Tout à coup, on voit quelqu'un qui fait un geste et on dit « Attends, je ne comprends pas, j'ai vécu avec quelqu'un qui a poussé le cendrier comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon, c'est ça, c'est le quotidien, parce qu'il y a la magie de « Oh, je voudrais qu'on vive ensemble » et tout ça. Bon, ben alors, ça y est, c'est arrivé, on vit ensemble. Et alors là, je ne peux plus vivre sans toi, c'est tout, je veux voir tout. Et on voit tout, et on montre tout. Et alors, ça, si on ne sait pas, alors là, il y a encore un talent, parce que de vivre ensemble. Alors bon, est-ce que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble? Ça, c'est un... Ou les hommes et les femmes, quand je dis ça, hein. Alors ça, je sais pas si on est fait pour vivre à deux. Moi, je voudrais qu'une chose se brûle tout le temps, vous comprenez? Et ça, c'est pas possible, je veux dire. Et ça, c'est pas possible, parce que justement, parce qu'il y a ce quotidien qui est terrible. Alors je sais pas comment... S'il faut s'habituer, vous comprenez? Et ce qui est un piège, alors ça, il faut partir. Parce que toujours, il y en a un qui avance et l'autre qui n'avance pas. Et tout à coup, celui qui avance... ayant bougé, les sentiments ont bougé, l'autre ne comprend pas. Mais je n'ai pas changé. C'est ça qu'on lui reproche. Mais je n'ai pas changé, je suis toujours la même. Oui, mais alors justement, alors on peut plus, on étouffe.
C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine, près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël, en smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied longe à la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied le long de la Seine, marchant d'un pas lent, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël, Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemand. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa. Heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Eux qu'avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
Juliette Gréco.
Je pense qu'elle a sûrement été aimée, mais je pense qu'elle a plus aimé encore. Je pense qu'elle était un être déchiré, en demande d'amour perpétuel. Je pense que c'était son combustible, son super. Je sais qu'elle aurait voulu avoir des enfants, et il m'a été dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Peut-être qu'elle aurait voulu avoir un enfant pour lui donner du bonheur, pour avoir quelqu'un à elle. Peut-être ces aventures amoureuses ont fait qu'elle n'a pas... que les gens qui étaient en face d'elle ne savaient pas recevoir ça. L'intensité, la qualité, la beauté de ce qu'elle propose, c'est peut-être un peu trop. Je pense qu'elle a cherché ça toute sa vie. Et qu'un enfant, elle aurait pu lui donner tout.
France Inter. Tous s'entendent pour dire que Barbara avait une véritable fascination pour les enfants. À Ramatuelle, là où le journaliste avait échoué, un petit garçon blond triomphe. Jérôme Garcin.
Par curiosité, on était venus l'après-midi, mon fils et moi, Gabriel, alors âgé de 6 ans, pour assister aux répétitions. Et on se cache dans la coulisse avec Gabriel. Et on voit cette répétition, ces premières chansons comme ça que j'entends encore, qui viennent cogner contre la vieille pierre de ce village charazin. Et c'est une petite cantate, et c'est toutes les chansons qu'on aime de Barbara. Et tout d'un coup, Gabriel m'échappe. Lui se fout du protocole. Il ne sait pas ce que moi je sais. C'est que, évidemment, la préparation d'un concert pour Barbara est quelque chose de sacré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interrompre une répétition. Et lui n'en a rien à faire. Il quitte la coulisse et il déboule au milieu de la scène. Je vois les musiciens qui s'arrêtent net. Et Barbara qui regarde ce petit garçon blond de 6 ans qui vient vers elle et qui lui dit « Bonjour, moi je suis Gabriel. Et toi ?» Et là, il se passe une chose incroyable, c'est qu'elle interrompt complètement la répétition. Elle dit « T'es qui, toi ?» Et puis commence un dialogue que moi j'observe gêné à 3-4 mètres en me disant ça va pas le faire. Et puis Barbara se met à répondre à des questions, mais comme je pouvais même pas imaginer qu'on oserait les poser à Barbara, du genre c'est toi qui compose de la musique, pourquoi t'es toujours habillé en noir, bon voilà. Et puis à un moment donné il dit écoute, on va reprendre cette conversation, mais d'abord je vais t'offrir un cadeau. Et elle appelle son chauffeur. Elle lui dit, emmenez ce petit garçon à Saint-Tropez, qui était donc Saint-Tropez, c'est à 3 km de Ramatuelle. Tu t'offres ce que tu veux, et puis quand tu reviendras, on reprendra la conversation. Et puis voilà, et je reste en coulisses à écouter la suite de la répétition. Les musiciens reprennent. Puis, 3 quarts d'heure après, reviennent le chauffeur avec mon petit Gabriel. Et il s'était acheté, donc, un appareil photo qu'on appelait des Polaroids. Et là, je vois Gabriel avec son Polaroid sur le ventre. Et là, autre réaction du père tremblant, c'est que s'il y a une chose que déteste Barbara, c'est les photos. Elle avait cette formule magnifique que moi, on ne me prend que vivante. Et là, je la vois, ma Barbara, qui pose devant mon Gabriel pendant des minutes et des minutes, et je vois sortir de cet appareil des photos de Barbara sur la scène de Ramatuelle. Il est 5h de l'après-midi, il fait toujours aussi chaud. Et puis continue cette conversation magnifique. Quand Gabriel lui demandait « Mais pourquoi est-ce que tu es toujours habillé en noir ?» Elle répondait « Mais pour moi, le noir est gai. » Tu sais, autrefois, quand il y avait des fêtes à la campagne, les femmes s'habillaient de noir. Et quand dans les grandes villes, les femmes veulent être très chic, elles mettent aussi du noir. Et puis elle avait terminé très drôlement en lui disant « Est-ce que franchement, tu me vois, moi, Barbara, en rose, habillée de rose, avec un gros nœud bleu sur la tête ?» Et là, je vois encore le fou rire de Gabriel imaginant la grande femme brune avec un fichu bleu et un manteau rose. Et puis finalement, on quitte en fin d'après-midi. Et puis elle lui dit « Mais tu reviens ce soir, hein. Tu reviens bien ce soir. » Et puis à 21h, la nuit était tombée, les premières étoiles dans le ciel de Ramatuelle. Mon Gabriel s'était peigné, avait mis une chemise blanche, il était au milieu de l'amphithéâtre. Et puis elle a commencé en disant « Ce soir, je vais dédier le concert de ce soir, le spectacle de ce soir, à un petit garçon que j'ai rencontré cet après-midi, et c'était Gabriel. »
France Inter.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, et le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, oh dites-lui qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand il voit que je flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, c'est tout et pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gosse au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France. Contre la délinquance, c'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Mais je vous le rappelle, je veux qu'il soit fidèle à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime concession pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne.
C'est sans doute au photographe Juste Jacquin que l'on doit les plus belles photos de Barbara. C'était bien avant qu'il ne réalise le film Emmanuel.
D'abord, j'étais un tout jeune photographe et je travaillais pour le journal Marie-Claire. Et j'ai fait une photo d'elle, la fameuse photo où elle a les bras étendus. Et j'ai dit à Barbara, mais tu sais, les photos du studio, ça serait quand même extraordinaire qu'on parte ensemble. On est parti à Hambourg, on est passé un week-end ensemble. Et on a fait ces photos dans la brume, sur le port et tout, qui a l'atmosphère de Barbara. Ambiance brume, fantomatique, noir-blanc, c'est Barbara, quoi. Tous ces gestes un petit peu extrapolés, un petit peu extravertis, en même temps très, très, très intérieurs. C'est un personnage extraordinaire. Je suis tombé amoureux photographiquement de Barbara pendant 3 jours. Je l'ai eu à ma disposition. Barbara mal photographiée, c'est une catastrophe, quoi. C'est certain. Si Barbara ne donnait pas son personnage et ne jouait pas de jeu avec le photographe, c'était une catastrophe.
Barbara a dit plusieurs fois qu'elle ne se trouvait pas belle. Est-ce que c'était difficile de la convaincre du contraire pour la prendre en photo ou...
J'ai essayé au contraire de lui faire comprendre que, reprenant la grande phrase de Cocteau qui dit « Fais de tes plus grands défauts tes plus grandes qualités », Je lui ai dit, au contraire, joue avec ton nez, joue avec ça, c'est beau, t'as un nez formidable, t'as un caractère extraordinaire. Regarde tous ces vedettes qui se sont fait entièrement refait le nez et qui ont perdu leur personnalité. T'as une personnalité, tu es belle comme ça et je t'aime comme ça. Et le seul fait de dire que je l'aimais comme ça, elle se sentait à l'aise. Sa personnalité, son caractère, son charisme était tellement énorme que c'est beaucoup plus beau qu'une fille très très belle d'une façon parfaite, mais qui est emmerdeuse, quoi, qui est ennuyeuse. Elle rentrait quelque part, tout le monde se retournait, elle a une présence. Je lui dis, mais c'est ta présence, ton charisme, c'est ça qui compte.
Le chanteur Gilles Vigneault se souvient d'un après-spectacle à Paris.
C'était une personnalité haute en couleur aussi. Je l'ai rencontré brièvement, avec tout ce que je dis, trop brièvement, dans la loge. Alors un jeune photographe qui était là, qui me dit, « Monsieur Vigneault, j'aimerais ça avoir une photo de vous et de Barbara. » Je dis, « Si elle veut bien s'y prêter, si elle est d'accord, moi ça va, c'est un plaisir et un honneur pour moi. » Parce que j'aurais trouvé la bonne femme extraordinaire. Il nous a fait placer debout, un en face de l'autre, et j'ai découvert qu'il nous photographiait pour nos nez. Elle avait un nez particulier, et moi j'avais le mien, alors on se regardait tous les deux en bec d'aigle. Alors c'était une chose dont je me souviens, moins à cause de la photo, à cause de la gueule de Barbara, à voir en pleine face, et les yeux dans les yeux, elle te regardait comme elle chantait. C'était direct, franc, honnête, il fallait regarder dans les yeux aussi.
Gilbert Rozon, lui non plus, n'a pas oublié Barbara.
Le premier soir, quand elle est arrivée à Montréal, elle m'a demandé d'aller manger du poulet. Et donc, on s'est retrouvés chez le défunt Laurier Barbecue. Et je la vois commander un poulet complet avec des frites, de la sauce. Et on mange assis dans des banquettes avec Barbara, absolument incroyable, du poulet. Et le lendemain midi, je vais la chercher. Elle dit, écoutez, j'aimerais bien qu'on aille manger. Je dis, avec joie, où voulez-vous aller? Elle dit, j'aimerais manger du poulet. J'arrête l'histoire, on a mangé du poulet pendant une semaine. Deux fois par jour. Moi qui aime le poulet, en dernier, j'étais écœuré. C'était son plat. Elle adorait ça. Et elle mangeait, mais vraiment goulûment. C'était impressionnant. Donc, moi, mon souvenir de Barbara, c'est de manger du poulet du matin jusqu'au soir. Et puis le deuxième truc, qui est moins comique, mais qui est quand même intéressant, c'est qu'elle adorait aller dans les magasins qu'on disait à l'époque des Saint-Disquin, c'est-à-dire des magasins bon marché, et s'acheter toutes sortes de vernis à ongles pas chers. Alors, c'était des trucs très bon marché. On était absolument subjugués, un peu ahuris de la voir se balader, la grande Barbara dans Montréal, et ses goûts, c'était du poulet, puis des magasins bon marché pour s'acheter des produits de beauté de très mauvaise qualité, mais elle était fascinée par ça. Alors, évidemment, elle arrivait sur scène, puis c'était Barbara qui chantait L'Aigle Noir, complètement intérieur, transporté. Et nous, notre quotidien, on était avec une ogre.
France Inter.
Comment est-ce que vous réagissez quand vous vous retrouvez dans un endroit entouré de gens normaux, dans un supermarché, un hypermarché, dans les endroits où il y a du monde?
Alors, je me déplace extrêmement vite, bien que c'est rare qu'on me reconnaisse, il faut bien savoir aussi les choses. Non, parce qu'on croit toujours qu'on est reconnu. Enfin, moi, pour ma part, bon, on me reconnaît davantage si je retire mes lunettes, etc. Alors bon, des fois, il y a des gens qui disent c'est moi, alors des fois, on me le demande, je dis non, c'est pas moi. Puis je deviens toute rouge. Mais sinon, je me déplace extrêmement vite dans les rayons. Je suis assez fascinée par tout ça, par les choses, parce que je dis toujours qu'on connaît très bien une ville par ce monoprix. Moi, quand j'arrive dans une ville, je vais dans les monoprix, vite avant de filer au théâtre, s'ils sont ouverts à 9h, parce que on connaît bien une ville en voyant les objets qui sont dans ce monoprix, qui sont pas toujours les mêmes, vous êtes d'accord? Et c'est très, très intéressant, ça. Alors, j'adore ça, alors j'y vais, je sillonne comme ça, hop, 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 hop. Et si quelques fois, je sens qu'on connaît, je file.
La maison de Précy-sur-Marne, un des secrets les mieux gardés de Barbara. Au micro de Lise Payette.
Barbara, comment vivez-vous?
Ah,
ça a l'air de quoi chez vous, par exemple? Disons que je viens vous voir, qu'est-ce que je trouve?
Mais d'abord, je vous reçois le mieux que je peux.
Ça, c'est gentil.
Le mieux que je peux. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez deux immenses chiens, que je rappelle immédiatement, qui sont très gentils, mais qui sont très impressionnants. Vous trouvez une maison très silencieuse. En arrivant chez moi, c'est important, vous trouvez des prés, des champs, une allée très belle avec des grands arbres.
Parce que vous êtes à la campagne?
Parce que je suis à quelques kilomètres de Paris, mais c'est la vraie campagne.
Et vous vivez là beaucoup ?
Je vis là complètement.
Est-ce qu'on peut arriver chez vous sans s'annoncer, par exemple ?
Non.
C'est bien ce que je croyais.
On ne peut pas, mais je veux dire, à moins que vraiment...
Oui, qu'on soit très, très intime.
On peut m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et me dire, je suis là, ça ne va pas, ça on peut.
Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Mais dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images en baume aux brises frissonnantes, aussi folle que l'aube, aussi belle que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre.
Le refuge de Barbara, vu par Mine Vergès.
Alors vraiment, c'était tout à fait la maison qui allait à Barbara. C'était une maison carrée avec un petit jardin au milieu. Et bon, tout ce qu'elle avait mis, les lampes, les trucs, les coussins, tout ça, bien entendu, c'était Barbara. Il y avait des bijoux en argent, là, dans des plateaux. Et elle avait surtout fait un théâtre au fond du jardin. Il y avait une grande pièce et elle avait fait une petite estrade. Mais enfin, c'est là qu'elle répétait, qu'elle travaillait. Et il y avait des pianos dans toutes les pièces. Il y avait des pianos partout, dans la pièce d'en bas aussi. Dans sa chambre, en haut, il y avait un énorme piano. Elle était toujours au piano, je veux dire, d'un truc à l'autre.
Un des invités privilégiés, Jacques Higelin.
Il y a une période où on se voyait très très souvent, et puis où j'allais la voir chez elle, où j'allais écrire. Je lui ai demandé un jour, je peux venir chez toi, et je dois terminer mon album, elle dit viens et tout. Mais elle était drôle. Hein. Ce jour-là, d'ailleurs, elle m'avait reçu là pour cette histoire d'album d'écriture, sur le pas de la porte, toujours théâtrale, mais c'était une joueuse, hein, c'est une enfant, quoi, une grande enfant, en me faisant chute avec le doigt sur les lèvres. Et après, elle a écrit sur un papier, nous ne parlerons pas de la soirée, nous communiquerons par signe ou par écrit. Et alors, on a passé toute une soirée, jusqu'à ce que j'aille me coucher, de fou rire incroyable.
Guy Bedos.
Je n'ai pas passé beaucoup de journées avec elle. Je passais plutôt des soirées. Pour moi, c'était quelqu'un à fréquenter la nuit. Par exemple, elle m'avait demandé de venir apprécier quelques jours. L'idée de prendre mon petit déjeuner avec Barbara était quelque chose qui me donnait le vertige. Il n'en était pas question. Je ne voulais pas. Elle avait quand même l'air de sortir d'une tombe, parfois. Et elle était nocturne. Elle avait beau être, tout ce que je vous disais, drôle, etc. Mais il y avait quelque chose d'un peu macabre en elle. Et moi, le matin, je ne peux pas. Je sais pas quelqu'un avec qui on pouvait tout d'un coup se dire, tiens, on va aller manger une choucroute dans un restaurant alsacien à 13h30, non.
France Inter, une confidence à son ami Maurice Béjart.
Je me rends pas compte comment je fais une chanson au fond. Par exemple, il y a des chansons que j'ai faites en 3 ans, une chanson plus 3 ans, et une chanson que j'ai pu faire en 1 heure, on sait pas, enfin c'est plus rare.
Et
c'est vraiment sur une émotion très forte.
En 3 ans, comme ça.
C'est en 3 ans. Et je sais pas. Tu sais, j'écris toujours sur une émotion, sur un truc. Alors c'est
une émotion
difficile.
Qui dure 3 ans, c'est déjà une bonne émotion.
Oui, 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 c'est une émotion. Quand je suis bouleversée par quelque chose, moi je me jette sur mon piano.
Ah bon?
Oui, tout de suite.
C'est un recours, alors.
Oui, oui, c'est
un recours. Il y a des gens qui, quand ils, aux enterrements, quand ils ont un gros chagrin, oui, ils se mettent à manger.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Nervosité, c'est ça. Mais moi, je me jette sur ce piano et c'est pas ma nervosité, mais ça. Comme ça, je t'allume que je parle, je sais pas pourquoi. C'est là que je me sens en sécurité. Dans une maison, moi, j'installe mon piano et puis j'installe le lit. Le reste est moins important. Et mes lunettes, bien sûr, parce que sinon, je ne peux pas aller de l'un à l'autre.
En 1959, le père de Barbara s'éteint. 4 ans plus tard, elle interprète pour la première fois Nantes. Personne ne peut imaginer alors que cette chanson étrange évoque un père incestueux. Dans son livre « Les vilains petits canards », Boris Cyrulnik fait de la chanson Nantes un modèle de résilience.
Nantes, c'était la chanson message. Je pressentais quelque chose En entendant la chanson, je me disais, c'est curieux, il est parti sans un adieu, sans un je t'aime. Qu'est-ce que c'est que cette chanson étrange? Il y a une énigme. C'est-à-dire que cette chanson contient un message énigmatique. Je cherchais des vilains petits canards, c'est-à-dire des enfances blessées qui avaient su transformer leur blessure en œuvre d'art. J'avais cherché la Calas, qui avait été très malheureuse dans son enfance, qui avait été abandonnée par sa mère et qui est devenue une femme absolument somptueuse, qui a fait revivre l'opéra. La Calas et Barbara, elles font frissonner toutes les deux. Frissonner, on est vraiment saisi au sens étymologique, on est saisi, transpercé. Et je savais vaguement qu'elle avait eu une enfance, une adolescence difficile, mais je soupçonnais pas à ce point. C'est ensuite, bribe par bribe, que quand j'ai découvert son enfance et son adolescence, que j'ai compris à quel point c'était une immense difficulté. Mais elle avait transformé sa souffrance en œuvre d'art. Et ces merveilleuses chansons, ces merveilleuses poésies l'ont sauvée. C'est-à-dire que sans ça, elle n'aurait eu que du malheur. Et grâce à ça, elle a métamorphosé sa souffrance, elle a arraché des moments de bonheur. Donc c'est ça le principe de la résilience. Donc j'avais vraiment le vilain petit canard de mes rêves.
Il pleut sur Nantes. Donne-moi ta main. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville m'avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue. Je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange-en-Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir à l'heure de sa dernière heure. Après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence depuis qu'il s'en était allé. Longtemps je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange-en-Loup, je m'en souviens du rendez-vous. Et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, il portait l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange-en-Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà. Tu la connais l'histoire, il était revenu un soir. Et ce fut son dernier voyage, et ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, à l'ombre du jardin de pierre, je l'ai couché dessous les roses. Je veux que tranquille il repose. Mon père, il pleut sur Nantes et je me souviens ce ciel de Nantes.
Boris Cyrulnik.
Si elle était seule, ça reviendrait comme une rumination. Alors là, effectivement, ça serait une souffrance entretenue. C'est ce qu'on fait quand on est seul et quand on ne partage pas un récit, ce récit s'impose à nous, on rumine, on voit toujours les mêmes images et on est sur le tapis roulant de la dépression. Donc elle a fait le contraire, alors que ceux qui ne font pas ça sont prisonniers du passé. Ils ne pensent qu'à ça, ça s'impose dans le syndrome psychotraumatique. Le trauma s'impose sous forme d'images et de cauchemars, ça revient tout le temps, tout le temps. Alors que là, ce qui revenait, c'était une chanson, c'était pas un cauchemar.
Marie Chex.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle rechantait Nantes, elle revivait Nantes. Elle le revivait, je veux dire que c'est... Et donc la souffrance, elle repassait par les mêmes souffrances. C'était quelqu'un qui a joué et rejoué les douleurs à travers ses chansons. Et c'est pas parce que la chanson était écrite que c'était expédié. Je pense que c'était un processus plus long.
L'aigle noir, vu par le psychanalyste Philippe Grimbert.
C'est une chanson qui m'a toujours intrigué dès la première fois que je l'ai entendue. Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. On sent que c'est le récit d'un rêve qui commence. Et quand on s'intéresse au rêve, on sait qu'un rêve, c'est d'abord une réalisation de désir caché. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui cherche à se dire à travers le rêve, mais d'une façon masquée. Et parfois, c'est aussi la réactivation d'un traumatisme ou d'un événement douloureux. Et j'écoutais cette chanson en me demandant bien ce qu'elle pouvait bien vouloir dire, qu'est-ce que cet aigle noir qui jaillit comme ça, crevant les nuages, et qui vient se poser à côté de la dormeuse ou de la rêveuse. Et je ne trouvais pas, jusqu'au moment où une phrase du texte m'a vraiment fait dresser l'oreille. C'est le moment où elle dit « C'est alors que je l'ai reconnu ». Là, je me suis dit « Je l'ai reconnu ». Qu'est-ce que c'est que cet objet qui vient du passé ? Et elle n'en reste pas là, elle ajoute « Il m'était revenu ». Je me suis souvenu qu'il y avait une phrase dans une autre chanson de Barbara, exactement la même, « Il m'était revenu ». Une chanson qui s'appelle Nantes, chanson pendant laquelle elle laisse une sorte de suspense sur la personne qu'elle vient voir, qu'elle vient assister dans ses derniers moments, on ne sait pas encore qui c'est. Est-ce un ancien amant? Est-ce un ami? Est-ce un frère? Non, c'est son père, ce qu'elle dit tout à fait à la fin de la chanson. Il m'était revenu, mon père. Il se trouve que, lisant le journal de Barbara, qui n'a été publié qu'après sa disparition, elle évoque un événement absolument traumatique, c'est-à-dire son père, quand elle était encore petite fille. Elle raconte qu'un soir, il est venu la voir et que tout ce soir-là a basculé. On comprend très bien, même si elle le dit à demi-mot, que c'est évidemment un abus sexuel de la part de son père. Et je me suis demandé si l'aigle noir n'était pas précisément le récit rêvé de cette agression sexuelle de la part du père. Et je dirais même, avec l'audace qui caractérise les psychanalystes, que non seulement Barbara, dans cette chanson, évoque l'inceste, mais elle nous donne aussi, quelque part, les clés pour comprendre ce qui s'est passé exactement. De son bec, il a frôlé ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est là, probablement, une description de ce qui s'est passé entre son père et elle, et c'est précisément à ce moment-là qu'elle peut dire « C'est alors que je l'ai reconnu ». Autrement dit, dans cette chanson, une image du passé traumatique revient, celle du père violeur, du père incestueux, et Barbara en fait une chanson. Alors on peut se demander pourquoi. Et ça, on en a la clé dans la suite de la chanson, où un mot, enfin une petite phrase de deux mots, revient avec une extraordinaire régularité, c'est « comme avant, comme avant, comme avant ». Je voudrais, en quelque sorte, je voudrais que tout redevienne comme avant. Et je pense que le message le plus profond de la chanson pourrait se résumer en cela. Mon père a déchu, mon père s'est livré à un acte qu'il n'aurait jamais dû faire. J'ai besoin d'en faire une rêverie, un poème, une chanson, de façon à essayer de reconstruire ce personnage paternel tel qu'il était avant.
Un beau jour, peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes,
comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front, un brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé. Il m'était revenu, dit l'oiseau. Oh Dieu, mène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, et dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles. Comme avant, et dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, brise son vol pour gagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir.
Philippe Grimbert.
Je pense que la chanson doit garder sa part de magie. Et ce que je vous explique là, du sens sous-jacent, du sens caché ou profond de cette chanson, évidemment c'est un peu une autopsie, c'est terrible, parce qu'on n'a pas envie de voir les organes à l'intérieur du corps d'une chanson. On veut juste être sous le charme de la mélodie, du texte et de la poésie. Et j'ai le sentiment, au fond, moi aussi, d'être un peu un violeur de chansons, là, quand j'explique le sens de cette chanson. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon travers de psychanalyste. Et il se trouve quand même que beaucoup de gens m'ont dit, alors ça c'est vrai, vous avez raison, qu'ils ne pourraient plus écouter cette chanson de la même façon. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront plus l'écouter du tout, mais ne plus l'écouter de la même façon. Et si l'on entend à travers cette chanson le profond désir de vie de quelqu'un qui veut surmonter un trauma absolu et qui le fait de façon poétique, je crois qu'on peut écouter de nouveau cette chanson tout en sachant ce qu'elle recouvre.
Des chansons comme des énigmes. France Inter, Boris Cyrulnik.
Ah, mais je pense que dans l'énigme, c'est comme dans un roman policier. Hitchcock est le roi de l'énigme, c'est-à-dire que très souvent, il nous dit « ce musicien-là, dans 1h20, sera tué. Et tout d'un coup, le banal est transfiguré. Pourquoi? C'est peut-être lui qui va le tuer. Ah ben là, s'il rate l'autobus, peut-être qu'il va avoir la vie sauve. Et le banal est transfiguré parce que Hitchcock, dès le début, a annoncé l'horreur à venir. Donc ça, c'est un procédé. Je pense que Barbara le faisait. Elle donnait un indice dans Nantes. Elle donne un indice dans toutes ses chansons. Son truc, c'était « je vais presque vous dire quelque chose de terrible ». Mais je vais vous le dire joliment. Et finalement, c'était son truc énigmatique, moitié poésie, moitié policier.
Le code Barbara, Juliette Gréco.
Elle en parle d'une manière un peu secrète, un peu... Mais ça transparaît. Et c'est pour ça qu'on est bouleversé. C'est parce qu'elle a vécu ça. Même si on ne le sait pas, on le devine. Nantes, ça ne s'invente pas.
Est-ce que je me trompe ou il y a dans les chansons de Barbara quelque chose qui peut rappeler la peinture de la Renaissance, c'est-à-dire que au-delà du sujet, il y a toujours comme des mystères.
Oui, absolument, tout à fait. Il y a toujours un lointain paysage derrière qui est là absolument, de manière invraisemblable d'ailleurs, totalement inattendue, sans vraie logique. Mais c'est là qu'elle est. Elle vient de là.
C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Bon, quand Léonard vagabonde, mais que voulez-vous qu'on réponde? C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, que de mots vains on m'inonde. Critiques, artistes abondent en intarissables facondes. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, oh la Joconde. Venez voir le sourire, la Joconde, c'est le plus beau du monde. La Joconde, c'est moi.
Mystère ou non, depuis longtemps, Barbara se moque des traqueurs de mythes.
Il y a un mythe à propos de Barbara. Barbara mystérieuse.
Il y a des mythes.
Barbara...
Une mythe, il y a une mythe. Mythe.
Barbara rigolant, c'est assez drôle.
C'est assez rare. C'est drôle, parce qu'on a avec moi quelqu'un qui rit pas, je suis quelqu'un qui rit beaucoup, moi.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Tout me fait rire. Mais les gens qui rient pas, d'abord. Les gens qui rient pas, c'est pas sérieux. Les gens qui pensent que je suis mystérieuse, les gens qui croient que je suis pauvre, les gens qui pensent que je me prenais avec une chouette sur l'épaule me font rire, les gens qui pensent que je suis une intellectuelle me font rire, les gens qui, je sais pas quoi, moi, les gens qui pensent que je me prenais avec un fouet et des bottes me font rire, je suis les petits enfants. Non mais je sais pas, c'est pas du tout que la mythe, c'est ce que les gens ont fabriqué parce qu'ils avaient envie que je sois ça, et c'est complètement raté parce que je suis pas ça du tout.
Sur France Inter, c'était Barbara. En noir et blanc.
À la recherche, Marie-Pierre Duval.
À la technique, Serge Brideau.
La création musicale est signée Jean-Figon Calves.
Aux archives de l'INA, Christelle Rousseau, Véronique de Saint-Pastou et Marie Jarreau.